L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. ce petit télégraphiste, un jour, on lui dit d'aller porter un télégramme à Édouard Herriot. Malheureusement, l'enfant perd le télégramme. Grosse catastrophe, Édouard Herriot est président du conseil à cette époque-là, donc ça devait être un télégramme très important. Alors tous les gens du quartier où il a perdu le télégramme aident le pauvre jeune homme à retrouver son télégramme. Et ça montre un petit peu tous les gens de peuple, le peuple, le quartier populaire de Paris, etc., etc. La recherche dure très longtemps, elle dure jusque la nuit. Même tard dans la nuit, on retrouve le télégramme. Et malheureusement, on s'aperçoit, c'est que, en allant porter le télégramme, c'est que ce n'est pas Édouard Herriot, le président du conseil, mais Édouard Herriot, un charbonnier qui était pour lui le télégramme. Voilà. C'était des films très intéressants. Enfin, qui étaient intéressants pour nous, parce qu'à notre époque, malheureusement, les gens ont changé, leur goût a changé, c'est plus pareil, alors ma foi. Mais ça vaudrait peut-être la peine, c'est qu'on les rediffuse et qu'on les revoie. C'est peut-être intéressant. J'ai lu un article complètement idiot dans Le Monde magazine du 16 juillet 2005. Des gens qui veulent avoir une quatrième et que l'on revendique une quatrième identité sexuelle, no sex. Ce sont des personnes qui revendiquent publiquement et veulent être reconnues par la société parce qu'ils n'ont pas de rapport sexuel d'après eux. À notre époque, l'on revendique tout et n'importe quoi. On se veut individualiste, mais l'on veut que son individualisme soit reconnu par la société et ses soi-disant particularités soient reconnues. Publiquement et de n'importe quoi. Il suffit qu'une personne lève le petit doigt d'une façon spéciale pour qu'elle forme un collectif pour pouvoir être reconnue pour cela. Et ceci pour tout. Quant à la sexualité, la société n'interdit pas quoi que ce soit du moment que ça ne nuit pas ni à soi ni aux autres, et surtout n'interdit pas que l'on reste vierge si l'on veut, du moment que ce n'est pas une contrainte forcée, un chantage ou autre. Les dire ouvertement que l'on est vierge et que l'on veut le rester, à quoi cela sert-il? Et que l'on veut être reconnu vierge et que l'on veut être et se sentir particulier, être reconnu à part particulier. À quoi cela sert-il à la société de savoir que monsieur ou madame soit vierge? Et à quoi cela leur sert-il qu'on le sache? Une personne qui se dit non-sexe dit qu'il se masturbe. Pour moi, se masturber, c'est sexuel. On peut le faire à plusieurs, par fantasme. Par fantasme. Pour une autre personne. La masturbation, quelle soit et comment on la pratique, fait partie de la sexualité sexuelle et qu'on vienne m'expliquer le contraire. Alors que cette personne qui se dit non-sexe et qui se masturbe n'est pas non-sexe. Je pense que ces jeux non-sexe sont pour la plupart timides, ont peur des autres et d'eux-mêmes, et sont peut-être aussi homosexuels et n'osent pas se le dire et le dire aux autres. Le sexe, même l'Église, même pour les prêtres, est en nous, indissociable à nous. Pour être non-sexe, il faut une grande volonté, une maladie, et surtout pas se masturber. On peut être non-sexe en ayant des désirs, mais ces désirs ne vous font pas se masturber ou autre. Et puis arrêtons de dire publiquement tous nos faits et gestes et de dire tout ce que l'on ressent pour prouver que l'on est à part les autres, avec ou sans sexualité, nous sommes des êtres humains faits de la même chose et nous avons les mêmes besoins. Revendiquer des particularités de quoi? Pourquoi? Et la plupart du temps, est-ce des particularités? Être vierge, tout le monde l'a été. Beaucoup ne le sont plus. Et ceux qui le restent, ben, il faut le reste. Et alors? Pourquoi en faire tout un plat? Et puis ne rendons pas public tout et n'importe quoi. Attention à tout se dévoiler, cela risque de nous nuire. La vie intime doit le rester comme les lois doivent rester, respecter la vie privée. Lorsque nous étions enfants, nous étions gênés de ne pas avoir de vie intime devant nos parents et les autres. Même se laver n'était pas intime. Alors, être adulte, c'est avoir le droit d'avoir une intimité. Une intimité qui ne regarde personne, c'est un privilège. Pourquoi le gâcher? Par des confessions. Peut-être que les gens de notre époque ne sont plus aussi adultes pour accepter leur liberté et ont besoin d'un œil pour les regarder et qu'ils ont besoin qu'on approuve comme les gosses tout ce qu'ils font et qu'on leur donne des points de bonne conduite, qu'on leur donne comme les gosses la permission de faire ceci ou cela. Les adultes se croient encore à l'école. Un ami, Monsieur Giacomo, m'a donné un vieux livre scolaire d'histoire de 1889, l'histoire grecque de Monsieur Victor Duruy. J'ai trouvé ce livre très intéressant et bien écrit, merveilleusement bien écrit, et très compétent et complet par rapport aux livres d'histoire, enfin si on peut appeler ça des livres d'histoire que l'on donne maintenant aux jeunes pour qu'ils puissent apprendre. Et nous voyons la dégradation de ces livres d'histoire. J'étais passionné par par ce livre. J'aime beaucoup l'histoire grecque, qui fait partie de notre histoire, surtout pour moi, qui est un nom, Arien, qui veut dire toujours jeune. En lisant l'histoire de la Grèce antique, je me suis rendu compte que les guerres, même celles de Troie, étaient déjà des guerres économiques. C'était des histoires de domination, de droit, de péage, etc., etc. On détruisait une ville, un peuple, parce que vous faisiez de l'ombre. De l'ombre du point de vue économique. Déjà du temps antique, on faisait déjà ça. La Grèce classique antique n'a pas duré longtemps parce que les Grecs se sont battus entre eux, entre Athènes et Sparte. Il y a eu des guerres qui ont duré des années et des années parce que Sparte était jalouse d'Athènes. Athènes, c'était la culture. C'était la douceur de vivre, tandis que Sparte, c'était tout à fait autre chose. La rudesse, si l'on veut. Il y avait des guerres terribles et ça a beaucoup détruit, ça a détruit et démoli le monde grec. Les Macédoniens en ont profité. Les Macédoniens n'étaient pas des Grecs, ils étaient des, ce qu'on pouvait appeler avant là-bas des barbares. C'était un autre peuple. Et ils savaient à peine parler grec, ils avaient des difficultés à parler grec, mais ils adoraient la culture grecque. Ils avaient une passion pour la Grèce. Alors lorsqu'ils ont conquis la Grèce, ils ont préservé et conservé la Grèce. Mais malheureusement, ça a aussi permis la dégradation de la Grèce. C'était plus la Grèce qui dominait le monde à partir d'eux. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a beaucoup plu. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait mal de voir nier notre culture, la dénigrer, la salir. Moi, je garde dans mon corps, c'est en moi, c'est à moi, la culture, la culture de mon peuple, de mon pays. Pour moi, c'est précieux. Tout ce qui est ma famille, mon peuple, mon pays, tout ça a fait ce que je suis, tout ça c'est moi. Et nier tout ça, c'est comme si on me niait. Et puis, nier tout ça, c'est nier la différence vis-à-vis des autres. C'est m'enfoncer et faire comme si je n'existais plus, comme si l'on n'existait plus. Que je voulais vous dire, enlever des rideaux. Pardonnez-moi, c'était un peu long, quoique je ne le pense pas. Maintenant, place à la création, place au rêve, rêve qui peut être aussi un cauchemar. Place à la création. vieillard, allongé, plaqué au sol, qui semble mou. Son corps bat très fort, elle a peur, aimerait fuir, mais ne le peut. Elle l'est plaquée contre le sol. Une ombre s'approche d'elle, se penche vers elle, l'enveloppe. Elle voit qu'elle l'enveloppe complètement. Ah, d'une façon surhumaine, elle se met à pousser un cri. Le noir disparaît. Une image trouble qui tremble apparaît. Elle est essoufflée, en sueur, épuisée, son corps plaqué comme s'il était de la pierre. Petit à petit, ce qu'elle voit devient moins trouble, mais ne tremble plus. Son corps se calme, reste un moment sans bouger, pour reprendre ses esprits, puis se soulève, aidée de ses deux coudes. Les draps et la couverture sont en désordre et ne la couvrent plus. Elle sent de la fraîcheur derrière elle, se lève, met ses pantoufles en satin blanc qui sont au pied de son lit. Elle est en chemise de nuit. La chambre baigne de lumière. Les volets ne sont jamais fermés. C'est une grande pièce claire, meublé Louis XV. Elle longe sa chambre pour aller à la salle de bain. Elle est grande, mince, cheveux longs, blonds, qui ondulent. Entre dans la salle de bain. Belle salle de bain de marbre rose. Se voit dans la grande glace qui se trouve au-dessus du lavabo. Belle. L'air rêveur, un peu égaré, yeux bleus profonds. Quitte sa chemise de nuit. Lentement, tous ses gestes sont lents. Une fois nue, elle va faire couler l'eau pour prendre un bain. Une demi-heure plus tard, elle sort de sa chambre en petite robe d'été blanche, suit un long couloir. Ses pas sont calmes et doux comme ceux d'une danseuse. Ses gestes sont lents et gracieux. Elle frappe à une porte et entre. C'est un grand salon meublé Louis XV, cheminée de marbre, tapis à terre, grande porte-fenêtre qui donne à un balcon. S'approche d'une table basse et va s'asseoir dans un fauteuil près de la table. Attends. Sa tête est comme dans du coton. Ça lui est toujours dur le matin pour reprendre ses esprits. Il serait plus facile si elle ne faisait pas toujours le même cauchemar. La porte est ouverte. Le bruit lui a fait lever les yeux. Elle voit un homme, le sourire aux lèvres, mais un peu crispé. Il est grand, fort, cheveux châtains, court, yeux bleus. Plus clair qu'elle, son visage a un côté là. Porte un costume marine. Va à elle. Tu es déjà là, ma chérie. Elle lui sourit. Il se penche pour lui donner un baiser sur le front. Bien dormi. Elle lui répond avec un sourire triste. Toujours la même chose. Ce ne sont que des cauchemars. Il faut oublier. Il lui prend la main, lui sourit et lui dit « Viens, nous allons prendre le petit déjeuner. » Elle se lève et se laisse guider. Il ouvre une grande porte qui donne au coin salon. Ou s'il y a déjà sur une table basse des tas de choses pour le petit déjeuner. Il y a contre le mur un buffet, au-dessus du buffet, une nature morte qui représente une corbeille du fruit du 18e. Ils s'assoient l'un en face de l'autre. Il appuie sa sonnette pour faire servir le petit déjeuner. Entrez. Est entrée une femme grande, forte, cheveux bruns, habillée en bonne, qui vient à plateau et qui va servir le petit déjeuner. Elle met devant la jeune fille une soucoupe avec dedans des pilules. Merci. Elle sert un verre d'eau à la jeune fille pour qu'elle puisse prendre ses pilules. Une fois qu'elle a fait le service, la domestique se retire. La jeune fille prend ses pilules. L'homme lui sourit et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ce matin ?» Elle lui répond « Je ne sais pas. » « Tu n'as pas cours ?»« Non, pas ce matin. » « Eh bien, tu ne peux pas rester comme ça enfermé. Il faut sortir. » « Je crois que c'est ce que je vais faire. » Oui, je vais dessiner quelques croquis. Une demi-heure plus tard, elle sort de l'hôtel particulier haussmannien qui se trouve avenue Foch, à 5 minutes de l'Arc de Triomphe. L'air frais lui fait du bien et la lumière du matin lui montre un Paris délicieux. Elle descend le perron, longe la petite cour pavée qui a de gros pots de fleurs en pierre blanche, va jusqu'au portail. La propriété est délimitée par un muret. Au-dessus du muret, il y a une petite grille pour cacher les regards indiscrets. Il y a une haie touffue et haute. Juste au moment où elle va ouvrir le portail, elle entend « Chérie !» Elle se retourne et voit de la fenêtre deuxième étage. Elle dit « Oui ?»
J'ai oublié de te dire, c'est que cet après-midi, je ne rentre pas. J'ai un rendez-vous important qui risque d'être long.
Elle lui dit,
bien.
Lui lance un baiser et elle quitte l'hôtel. Elle a à la main un petit carnet à dessin et un crayon. La nuit est calme, il y a peu de voitures et de passants. Elle se sent mieux et décide d'aller au parc des Tuileries. Elle se sent bien, même, et beaucoup mieux que lorsqu'elle est chez elle. Et puis, lorsqu'elle est enfermée, quelque part, elle a l'impression d'étouffer. Elle a besoin d'air, de sortir. Et ceci, malgré sa longue langueur. Il fait très beau et doux. Le ciel est bleu, mais un peu pâle, et ne fait pas mal aux yeux. Paris ce matin est pastel, l'air est frais. Les passants qu'elle croise semblent détendus. On approche des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. La circulation augmente, mais ce n'est pas encore la grande circulation. Elle longe les Champs-Élysées pour aller jusqu'à la place de la Concorde et le jardin des Tuileries. Elle n'aime pas beaucoup les Champs-Élysées. C'est touriste, plein de restaurants rapides qui donnent de la cuisine de mauvaise qualité, des cinémas, magasins de sport, tout ça c'est touriste, c'est pacotille. Pour le moment il y a peu de monde. Les commerçants commencent à mettre leurs étalages sur les trottoirs. Enfin, place de la Concorde, elle traverse sans difficulté et arrive au jardin. Là aussi, il y a peu de monde. Les touristes ne sont pas encore arrivés. Elle cherche un endroit tranquille. facile. Un banc au pied d'un arbre, un peu en retrait de l'avenue principale. Regarde autour d'elle, sort son petit carnet à dessin et se met à faire quelques silhouettes croquis des passants avec son crayon. Les enfants viennent jouer près d'elle, le temps passe, elle dessine des silhouettes. Elle dessine des silhouettes de quelques coups de crayon nets et précis. Elle lève la tête de son carnet et voit une femme dans les 40 ans, grande, mince, blonde, habillée d'une robe blanche, à petites fleurs bleues. La femme lui sourit, lui demande « Que fais-tu là, Florence ?» Florence, vous les épaules lui dit « C'est des croquis. » Et vous, Odile ? Elle dit soupir. C'est pour près d'elle. Je suis allé chercher mes billets. Je pars faire un séjour en Amérique. Je vais voir des amis là-bas. J'en ai assez de Paris. Et surtout de mon mari. Depuis qu'il s'occupe de ses cinémas, il ne pense qu'à ça. Moi, je deviens folle. Je ne parle que de ça. Son cinéma. Tu parles. On dirait que c'est lui-même qui a fait les films qu'il présente. Alors j'ai décidé de changer d'air. Et voilà. Et toi, comment vas-tu? Laurence lui dit, toujours la même chose. Je me sens toujours aussi lasse. Odile lui dit, c'est tes médicaments qui te font prendre. Tu as toujours tes cauchemars. Oui, toujours. Et pour moi, c'est terrible. Je me réveille en sueur. Je comprends. C'est le choc de ton accident. Tu as eu un terrible accident. Et tu es resté plusieurs jours sans connaissance. Ton père a eu très peur. Laurence lui dit, je ne me souviens de plus rien, ni de mon accident, ni de ce que je faisais avant. C'est le choc qui t'a fait perdre la mémoire. Laurence lui dit, permets-moi. Des choses, je n'ai pas été capable de me dire ce que je faisais dans cette voiture et où j'allais. Il ne vaut plus penser. Quelquefois, c'est une bonne chose d'oublier ses peurs, son passé. Le passé peut empêcher de voir et de vivre au présent. Si, sans te poser de questions, ma fille. Oui, vie sans te poser de questions.
Je me suis dit, j'aimerais bien vivre. Mais je me sens si lâche
et si horrible.
Et quoi? J'ai l'impression d'étouffer, surtout lorsque je suis chez mon père. J'aimerais courir, aller, venir. Mais je ne le peux pas.
Petit lui dit, c'est des médicaments, arrête-les!
Je ne peux pas, mon père, ne voudrait pas.
Tu vois toujours un médecin?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Rien.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Je range les épaules et je dessine des gens pour me donner des idées. Et j'ai tous affreusement mal habillé et quel très quelconque.
Moi aussi.
Tellement quelconque que ça me gêne.
Moi, est-ce que je suis quelconque?
Non, pas vous.
Merci, c'est bien. Tu continues tes cours de mode?
Odile lui dit, je le fais, mais... je ne sais même pas pourquoi je le fais. Mon père m'a dit que c'était ce que j'aimais. Et moi, je m'en souviens plus.
Ça te reviendra.
Regarde.
Oh, mon Dieu, il faut que je le sauve. J'ai un déjeuner. La voir mère et Beaumont. Ils vont encore me parler de leur cinéma. Enfin. Dans deux jours, l'Amérique.
Elle embrasse Florence.
Tu passeras le bonjour à ton père. Tiens. Eh bien. C'est bien. Et puis, avec ton père, on n'a pas de discussion. Et toi non plus, t'as pas de discussion sur le cinéma.
C'est pas le cinéma.
C'est des discussions sur les pouces, ordinateur et consorts. En ce moment, il prépare un projet. Il veut apporter des informations dans le cerveau pour le faire réagir. Pour les jeux vidéo et même le cinéma. Plus de pellicule, rien. Le spectateur est, pour ainsi dire, à l'intérieur de l'histoire. Voit comme si la chose était réelle. Odile rit et lui dit, ça va ruiner mon mari, et tant mieux. Elle se lève, à bientôt. Et ne te pose pas de questions. Dis à ton père qu'il te laisse vivre. Et elle s'éloigne pour en soupir et se dire, c'est facile à dire. Oui. C'est facile à dire.
Elle aimerait être plus libre.
Oui, être plus libre. Ne plus prendre ses pilules. Ne plus voir ce médecin.
Et en même temps, elle a peur. Elle a peur.
Elle a peur d'avoir encore plus de cauchemars. Même dans la journée, il lui arrive d'avoir des images fugitives qui la terrorisent. Toujours, cette ombre qui s'approche d'elle et la paralyse. Elle a peur. Elle a peur.
de la lumière, des ombres. Et la porte d'entrée dans les allées, les voitures. Tout ça, elle le cache. On va voir l'air bête. À 20 ans, on n'est plus une petite fille qui apporte du noir. Regarde ses dessins, soupire, se lève et marche. Va jusqu'au Louvre. Arrivé à l'Arc de Triomphe du Carrousel. Bonjour. Elle tourne la tête à droite et voit un jeune homme grand, mince. Les cheveux, certains épais, yeux bleus, lèvres pulpeuses, le visage doux et qui semble toujours sourire. Il porte un pantalon noir, blouson vert et chemise blanche. Je lui demande, vous ne vous souvenez plus de moi ? Moi, je suis Thomas Frédéric. Je ne vois pas. Je lui dis la boudeur, c'est pas bien gentil ça, de m'avoir oublié. J'ai oublié beaucoup de choses. Nous nous connaissons comment. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.